Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et la période des grandes fêtes approchant, nous allons ce soir nous attarder sur un des moments les plus solennels de la liturgie juive. Il s'agit de la fête de Yom Kippour, terme que l'on traduit imparfaitement en français par le jour du grand pardon. Et comme à l'accoutumée, nous allons bien sûr parler de cette fête, mais surtout en entendre la musique de cette fête très solennelle, et plus particulièrement d'un des principaux offices qui la compose, l'office de Moussaf. Et pour nous éclairer sur ce vaste et passionnant sujet, j'ai le plaisir d'accueillir une fois de plus dans ce studio le chanteur Jacques Arnold, qui est notre référent en matière de liturgie musicale. Jacques Arnold, bonsoir.
Bonsoir. On retrouve notre habitude d'évocation des fêtes, comme on l'a fait souvent. Eh bien voilà, on s'y...
Ben, écoutez, c'est vous qui avez proposé cette fête. D'ailleurs, c'est vous généralement qui proposez un sujet. Oui. Moi, je suis toujours partant. Mais là, quand vous m'avez dit on n'a pas fait Yom Kippour, alors déjà, j'ai dit si, on avait traité de la prière du Kol Nidre avec Bruno Freitag à l'occasion de la sortie du disque consacré à différentes versions du Kol Nidre. Mais Kippour, c'est un monde à part entière. C'est énorme. Il y a combien d'offices d'ailleurs à Kippour?
Yom Kippour est une journée de jeûne et de prière. C'est une journée très intense dans laquelle on a en fait 5 offices. Alors que les jours de fête ordinaires ou habituels, on n'en a que 4. Il y en a un qui vient en plus le jour de Kippour, c'est l'office de Nehila qui vient clôturer la fête. C'est le moment où est apposé le sceau sur la sentence divine. Mais avant Nehila, avant Néla, on a Mincha, l'office de l'après-midi, l'office de Moussaf, que l'on va évoquer dans un instant, précédé de l'office de Shacharit, l'office du matin, et la veille, c'est Kol Nidre. Mais déjà, avant que l'on ne parvienne à Kol Nidre, le soir, on a déjà un office de Mincha, le 9 Tishri, c'est-à-dire la veille de Kippour, déjà un office de Mincha qui est très marqué par l'approche de la fête, puisque la journée du 9 Tishri est une journée qui prépare et qui est déjà fortement imprégnée de Kippour avec une certaine joie. Voilà donc le programme.
C'est-à-dire qu'en un peu plus de 24 heures, on a pas moins de 6 offices, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on passe quasiment toute la journée, la soirée et la journée jusqu'à la soirée à la synagogue, à prier.
C'est cela, c'est le propre de Kippour, un jour de prière. C'est le jour des expiations. On va l'évoquer un peu plus loin. C'est par la prière justement que l'on peut parvenir. Notre travail en fait. Hein, c'est notre travail de Kippour qui consiste, comme le grand prêtre avait son travail sacré, son avodat à Kodesh. La prière, c'est notre travail sacré. On ne peut pas simplement s'en tenir au fait que dans la Torah il est dit ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem, car c'est en ce jour que Dieu vous pardonnera et qu'il vous purifiera, comme si c'était quelque chose d'automatique. Non, il faut que nous y apportions aussi notre contribution, comme dans toute chose. Hein, Dieu a prévu le Shabbat, on pourrait se dire, on reste inactif. Et puis, non, il y a du travail à faire. Enfin, il y a de l'action à accomplir pour réaliser pleinement ce que l'on attend d'une telle solennité.
D'accord. Et alors, donc vous avez choisi l'office de Moussaf, donc un office particulier qui, on le répète, se positionne entre l'office du matin et l'office de l'après-midi, en fait. Mm-hmm. Et pourquoi donc ce choix? Pourquoi Moussaf que...
Moussaf, c'est, je dirais, le monument de Kippour, puisqu'on est dans une émission qui est axée sur la musique. Il est certain que c'est dans Moussaf que l'on trouve les grands morceaux, les grandes prières les plus marquantes, les plus marquées. Déjà, cet office de Moussaf dans les communautés ashkénazes est précédé de Yizkor. Hein. Bien souvent, dans beaucoup de traditions, il y a déjà cet office qui permet à chaque fidèle, comme à d'autres fêtes d'ailleurs, de rappeler la mémoire de ceux qui ne sont plus. Mais Moussaf, c'est une prière qui, d'abord, son nom, ce mot Moussaf vient de l'hébreu le hosif. Mossif, rajouter quelque chose. Donc c'est une prière supplémentaire.
C'est un office.
C'est un office qui est composé en effet d'une prière centrale qui est la Amida. Donc on retrouve Moussaf bien sûr dans tous les offices de fête, hein, fête de pèlerinage, le jour de Rosh Chodesh, le jour de la Néoménie, même chaque Shabbat, il y a bien sûr Moussaf à Rosh Hashanah, puisqu'on s'approche aussi de Rosh Hashanah, il y a cet office de Moussaf qui est donc bien rajouté. Ça fait que dans l'année, on a pratiquement 80 jours, hein, si l'on met tout en compte, tout en perspective, on voit qu'il y a 80 jours qui ont dans l'année un office de Moussaf. Mais à Kippour, cet office a une dimension, a une ampleur qui n'est pas égalée les autres jours. Déjà, même si à Rosh Hashanah, on le verra pour Rosh Hashanah, Moussaf prend déjà une certaine envergure, mais à Kippour, c'est quelque chose de plus encore. Alors, je vais essayer en quelques mots de donner l'origine de cet office de Moussaf. Il a été inclus dans le rituel, c'est-à-dire dans le Sidour ou dans le Marzor des fêtes, en remplacement des sacrifices énoncés au chapitre 28 du livre des Nombres, dans la paracha de Pinchas. Et c'est sous l'impulsion des membres de la Grande Assemblée, du temps d'Ezra, de Néhémie, c'est-à-dire au 3e, 4e siècle avant notre ère, ces membres de la Grande Assemblée, les Anshei Knesset Agdola, sont vraiment le maillon fort de la chaîne de transmission de la tradition depuis Moïse et jusqu'au maître du Talmud et de la Mishnah. Et à partir du moment où le temple a été détruit, eh bien, les membres de la Grande Assemblée ont voulu instituer, comme pour les autres offices, prières de la journée, un moyen de remplacer les sacrifices qui ne pouvaient plus être offerts dans le sanctuaire. Et c'est là que Moussaf prend sa place. Le fait de remplacer par des prières les sacrifices que l'on ne peut plus offrir en raison de l'absence du sanctuaire détruit, eh bien, cela se fonde sur les versets du prophète Hoshéa, du prophète Osée, au chapitre 14, qui dit « Armez-vous de paroles suppliantes et revenez au Seigneur, agréez la réparation, nous voulons remplacer les taureaux des sacrifices par cette promesse de nos lèvres », c'est-à-dire que les lèvres, la parole porteuse des prières que l'on formule, remplaceront les sacrifices. Et la prière sera en quelque sorte la compensation et elle amènera bien sûr le repentir, la teshuva.
Eh bien,
Kehu imachem devarim, c'est ce que dit le verset.
C'est ce que dit le verset et c'est ce que l'on va entendre tout de suite dans une version chantée par le célèbre Shlomo Carlebar de ce Kehu imachem devarim, donc ce verset du prophète Osée.
Show.
Kerou, Imarem Devarim, interprété ici par Shlomo Carlebar, dans un arrangement un petit peu, j'allais dire presque pompier, mais il faut dire que donc Shlomo Carlebar, c'est un petit peu le chantre du racidisme, car mis la musique, cette musique est à la mode, et comme vous le savez, dans le racidisme, ce qui compte, c'est l'intention, la kavana du chanteur, c'est-à-dire s'il est dans un élan de ferveur, peu importe en fin de compte l'arrangement et ce qu'il y a autour. Et la répétition fait partie aussi de ces procédés.
De l'intensité.
De l'intensité, c'est ce qu'on retrouve ici. Les autres musiques que nous écouterons n'auront pas forcément le même caractère, comme on va le voir très bientôt. Jacques Arnold, il est étonnant d'observer que les fidèles qui se rendent à la synagogue, donc à Yom Kippour, il y en a même qui se rendent une seule fois par an à la synagogue, on les appelle les juifs de Yom Kippour, parce que c'est une fête tellement importante, tellement solennelle, et eux, souvent, ils viennent pour soit la prière du Kol Nidré, parce que c'est une prière quand même très particulière, et encore plus à la prière de Nehila, qui est la dernière partie de cette journée de Kippour où on entend le shofar. Et donc là, il y a toujours un monde fou dans les synagogues, mais par contre, à Moussaf, on ne peut pas dire qu'il y ait fou dans la journée, non ?
C'est vrai, on va peut-être passer au travers de cette émission un message. Rendez-vous aussi à Moussaf. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'office de Moussaf se trouve en plein milieu de la journée. Il est au moment de Hatzot, au moment du milieu du jour. Ce moment coïncide exactement avec le moment où, dans le temple de Jérusalem, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. C'était l'homme le plus sacré, l'homme le plus saint, le Kohen Gadol. Au moment le plus sacré, le jour le plus sacré de la journée, dans le lieu donc le plus saint, tout était réuni. On était, on pourrait dire, presque à un moment de paroxysme. Et c'est pour cela que l'office de Moussaf retrace ce grand événement au cours duquel le grand prêtre prononçait le nom le plus sacré, le Shem HaMeforash, pour demander, pour invoquer le fait que le pardon soit accordé au peuple. Alors donc, c'est vraiment Moussaf qui porte, c'est vraiment la clé de voûte de cette journée. Cet office n'est pas considéré par nos sages comme une prière de supplication ou de demande adressée à Dieu, mais plutôt, elle a le caractère d'une louange, d'une reconnaissance envers Dieu. C'est le cas des autres offices de Moussaf, le Shabbat ou bien les jours de fête. On ne fait que simplement glorifier Dieu pour le fait de nous avoir donné une solennité ou un jour marquant. Et il est souhaitable, d'après les textes rabbiniques, de faire Moussaf, de prier Moussaf plutôt dans une communauté, mieux qu'individuellement. Il vaut mieux rejoindre l'assemblée des fidèles. Et pour Moussaf, c'est quelque chose qui doit se faire en public. Et nous verrons qu'en ce qui concerne Kippour, le contenu va même au-delà d'une simple louange. C'est vraiment une prière qui contient beaucoup. Alors dans cette prière, on le verra, il y a une trame qui est très simple, c'est qu'en fait, comme les autres offices, Moussaf, c'est avant tout une Amida, c'est-à-dire une prière debout à voix de basse qui est récitée les pieds joints en grand recueillement par les fidèles. Puis dans un second temps, comme les autres moments de prière, elle est répétée à voix haute, c'est-à-dire comme pour la prière du matin, la prière de Moussaf ou la prière de Mincha, elle est répétée à voix haute par l'officiant avec de nombreux additifs, ce sont des piyutim, ce sont des textes rabbiniques, des poèmes qui vont lui donner un cachet particulier, et notamment on voit que s'y trouve incorporé le Seder HaAvoda, le service du Kohen, le Untane Tokev dont on parlera dans un instant, ou même Aleinu Leshabeach, la prière de Aleinu Leshabeach qui de nos jours est récitée comme prière finale. À l'origine, c'était la prière de Rosh Hashanah et de Kippour au cours de laquelle, évidemment, on se prosternait. Voilà à peu près la trame de cet office.
On peut rappeler, la Amida, c'est une suite de bénédictions.
Dans la semaine, il y en a 18 plus 1, c'est-à-dire 19. Ah, oui. Les jours de fête, il n'y en a que 7. Ou le Shabbat, il n'y en a que 7. À Kippour aussi. À Rosh Hashanah, il y en a davantage.
C'est cette suite de bénédictions que l'on truffe en fait, avec des insertions de poésie religieuse et de diverses prières.
Qui nous font prendre conscience de l'ampleur de cette journée et qui nous rapproche aussi de ce parcours, qui nous place dans ce parcours de teshuvah, de repentir. C'est un petit peu le dernier moment. Hein. On a commencé la teshuvah déjà depuis tout le mois d'Eloul, on a fait des slichot. Mais Yom Kippour, c'est le moment privilégié pour encore, dans un ultime recours, c'est le moment pour le faire. D'ailleurs, Yom Kippour est... Je voudrais conclure là-dessus cette petite remarque. Yom Kippour se situe au milieu des jours où l'on effectue, de ces jours Yamim Noraim qui partent de Rosh Hashanah et qui vont jusqu'à Hoshana Rabba, le 20-21 Tishri. Et Yom Kippour, c'est le 10, donc c'est juste au milieu. Donc on est vraiment dans le milieu du milieu avec Moussaf.
Alors vous m'avez dit en micro qu'en plus dans le rite Ashkenaz, c'est... Vraiment une des rares prières qui donne lieu à des prosternations. C'est peut-être la seule. On n'a pas l'habitude de se prosterner du tout dans la tradition juive.
Pour Aleinu Lechaber, ainsi que pour, on le verra, pour Untane Tokef.
Et donc, l'officiant donc, commence, vous m'avez dit, son intervention avec la prière, comment elle s'appelle, voilà. Ineni
et Oni Mimaas. En effet, le rôle de l'officiant est primordial pour Moussaf. C'est en général à l'officiant principal que l'on accorde le soin de diriger cette prière. Et dans le rite Ashkenaz, elle est précédée par une sorte de... d'adresse à Dieu, une de prière individuelle de la part de l'officiant, comme d'ailleurs cela se fait par celui qui sonne le shofar le jour de Rosh Hashanah. C'est une prière de demande à Dieu et dans laquelle il dit « Me voici dépourvu, donc avec grande émotion, me voici dépourvu de tout mérite, tremblant, craignant celui qui est vénéré par la louange d'Israël. Je viens me présenter devant toi et implorer ta grâce en faveur de ton peuple Israël qui me charge de cette mission. Alors, tous nos malheurs et nos souffrances feront place pour nous et tout Israël à la joie et l'allégresse pour la vie et la paix. Alors, la vérité et la paix iront de pair. » C'est la prophétie de Zacharie. « Fasse en sorte qu'aucune erreur ne survienne et n'altère ma prière. » Donc, c'est une prière dont l'auteur n'est pas connu. On suppose qu'elle a été introduite dans le rituel à la fin du XVe siècle. Mais elle a une grande résonance sur les fidèles. On écoute le Chazan qui fait cette prière.
On va l'écouter tout de suite. Avec la magnifique voix de Yosele Rosenblatt, Joseph Rosenblatt, donc une version historique. Et à la suite de cette prière, nous entendrons une autre prière d'introduction au Moussaf, cette fois-ci dans le Rite Sepharad, prière qui s'appelle Adonai Shamati Shemacha. Et son auteur, qui s'appelle Chaim Modai, vers le XVIIIe siècle...
De Safed, oui, c'était un sage de Safed de
Galilée. De l'école de Safed en Galilée, demande à Dieu d'exaucer ses prières et de lui venir en secours.
Pachad Yosef Tehilos Yisroel Bosi Lamadu Lishanin Lefonecho Alamchu Yisroel Asher Shiluachu Ini ויאף על פי שבניחדי ויהוגו לכך לא כן אבקש ממך אלא כי אברהם ולא כי יצחק ולא כי ויעקב Adushem, Adushem, Kehen Rachum, Vechanun, Elokei, Yisroel, Shaddai, Oyoy Ben Oyero, Asher onaych yoneich ve'yohav avoy meir Levakesh rachmir
Adonai, Shamati Shimaha, Yare.
Adonai Shamati Shimcha, extrait d'un très beau CD qui s'appelle Heritage, the Musical Tradition of the Sephardim from the Balkans, les Balkans, de Méditerranée et de Middle East. Et c'était le groupe Shira Otfila. Et cette prière de Kippour était précédée d'une autre prière dans une version ashkénaze, Ineni Eani Mimas, chantée par Yossele Rosenblatt. Une réédition Jewish Liturgy, donc Seth Great Cantors chez Buda Musique. Jacques Arnold, on dit souvent que le temps fort de Moussaf est marqué par l'interprétation d'une prière. Cette prière, c'est Untanetoike, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est entonnée par le Razan avant l'Akdoucha. Pourriez-vous nous expliquer brièvement le sens de cette prière Untanetoike ?
Oui, c'est une prière, là aussi, je dirais que c'est la grande référence, le grand moment que l'on, au travers duquel on écoute le Razan entonner les prières particulières de Kippour. Et cette prière remonte au début du Moyen-Âge. Son origine, elle est d'Allemagne, de la ville de Mayence, où se trouvait un rabbin très estimé de tous, des juifs et même des non-juifs, du duc de la province dans laquelle il se trouvait. C'était en la province du Hesse. Il était très apprécié. C'était Rabbi Amnon de Mayence. On se trouve là au XIe siècle. C'est l'époque, enfin juste avant Rashi, hein, c'est très lointain. Et ce rabbin avait été obligé par un changement, on pourrait dire, de régime ou de mentalité au sein des gouvernants de cette province, avait été obligé de se convertir. Il avait demandé un sursis de 3 jours et il a tardé, il était très très affecté par cette obligation qui pesait sur lui, et il est revenu auprès du prince, auprès du duc, et il l'a mutilé parce qu'il était venu trop tard. Il a dit, puisque tu ne veux pas obéir, puisque tu as tardé, tu as traîné les pieds, eh bien on va te mutiler. Enfin, il a subi un très très grand nombre de souffrances, et c'est mutilé, malade, affaibli, qu'il est venu, qu'il a demandé le jour de Rosh Hashanah de venir dans la synagogue pour entonner cette prière que lui avait composée et qui commence par ces mots « Untanetokev, Seigneur, nous tremblons devant toi en ce jour solennel et redoutable ». Et donc, aujourd'hui, nous reconnaissons ta puissance avec une crainte respectueuse et nous sommes éblouis par l'éclat de ta grandeur. Alors, c'est une très longue prière dans laquelle il y a plusieurs volets. À Rosh Hashanah, tu nous inscris, et à Yom Kippour, tu nous scelles dans le livre de la vie. Il y a cette belle image que l'on entendra dans les quelques extraits qui vont suivre de ce passage qui dit que Vakarat Roé Edro, Dieu est comme un berger qui amène son troupeau sous la houlette et qui décide de qui vivra, qui mourra. Il y a également les 3 piliers de ces jours austères qui sont la teshuva, la prière, le repentir, la tfila et la tzedaka, c'est-à-dire le fait d'accomplir des bonnes œuvres. Voilà tout résumé dans ces deux pages sublimes, magnifiquement chantées par pratiquement tous les chazanim. Et vous allez nous en donner peut-être les versions qui vont suivre.
Alors on va entendre successivement donc le début de Untani Toikev par Moshe Koussevitzky. Ensuite, donc, Kevakarat par Raphaël Cohen, suivra Berosh Hashanah par Naftali Erstik, et enfin Ki Keshimro par Shalom Berlinski. Donc, une compilation, un morceau choisi de cette très longue et très belle prière de Untan et Toikev. We're Nous venons d'entendre quatre extraits de cette prière, cette grande prière de Untane Toikef, interprétée notamment par Moshe Kusevitsky, Raphaël Cohen, Naftali Herztig et Shalom Berlinski, que du beau monde Jack Arnold. Faut dire juste une chose, c'est que là, on est dans une version concert. En fait, ces grands airs donnent lieu à des concerts. C'est pour ça qu'on entend des instruments, mais le jour de Kippour, c'est pas comme ça.
Oui, le jour de Kippour, tout repose bien sûr sur le talent vocal du Chazan qui doit donner. On a entendu tout à l'heure avec Rosenblatt, Yossel Rosenblatt, avec cette voix de tête qu'il utilise pour montrer ce qui est très élevé, la voix plus de poitrine en quelque sorte, pour montrer ce qui est simplement chanté. Il y a toutes sortes de moyens qui sont utilisés par le Chazan pour développer et pour susciter l'émotion des fidèles qui sont là. Dans la dernière version, là, on a écouté que la réponse du cœur. Hein, le cœur, c'était de cette manière que l'on priait Rue de la Victoire dans les grandes synagogues avec les compositions de Samuel David ou de Nombourg. Dans les précédente version, on entendait vraiment la Chazanout d'Europe centrale. Mmh. Avec Naftali Herztig, c'était déjà moderne. Je pense qu'il y a des mouvements, des rappels de certaines symphonies de Mahler dans la version d'Herztig.
C'est possible.
Voilà, tout cela est fait pour susciter l'émotion et donner aux fidèles le moyen de s'élever par la prière.
Alors moi, ce qui me fascine toujours dans cette journée-là, juste un mot, c'est de penser que non seulement ces chantres élèvent leur voix, mais pendant enfin, 24 heures, il prie peut-être 12 ou 13 heures de suite, et il prie à jeun sans avoir bu pendant 25 heures. Donc ça, c'est quelque chose au niveau vocal qui m'émerveille aussi énormément. Mais là, ce qu'on entend, c'est donc des événements qui ont été mis en scène lors de concerts, puisque ces prières sont des grandes prières qui sont souvent jouées, interprétées lors de concerts. Mais Yom Kippour n'est pas un jour particulièrement festif. Il clôture ce qu'on appelle les Yamim Noraim. Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est exactement ces Yamim Noraim?
Ce sont Nora en hébreu. Nora, ça veut dire redoutable. C'est une chose de laquelle on éprouve de la crainte, la ira, n'est-ce pas?
Et Yamim, ce sont les jours.
Les jours redoutables. On peut aussi les appeler les jours austères, car c'est un jour de jugement. Hein. Le jugement se prolonge. On a dit qu'il a commencé à Rosh Hashanah et il va se terminer par une ultime possibilité de faire encore appel le jour de Hoshana Rabba, à la fin de la fête de Sukkot. Et là, on voit que c'est peut-être le propre de l'office de Moussaf que j'essaye de dégager. Et on va le voir par la prière qui va suivre, ou Ipne Hataenu. En fait, on se trouve dans quelque chose d'entremêlé. C'est-à-dire, on est dans un jour de redoutable. On est plein d'émotions, on est en train de jouer notre jugement, notre sentence, mais il y a également une part de fête, de joie qui va bien entendu se ressentir à la fin du jeûne. On va se sentir comme dégagé un petit peu de cette oppression, mais on éprouve le fait de revivre ce qui était vécu dans le temple de Jérusalem. C'est pour cela qu'on va écouter « Umipne Hataenu », comme dans tous les Moussaf, on se rappelle que tout cela était accompli dans la manière la plus large dans le temple de Jérusalem. Nous, on n'a plus ce temple à cause des fautes qui nous ont causé cette perte. Et on va restituer ce cérémonial. C'est ce que l'on fait dans de nombreuses traditions. Quand on compte le Homer, c'est pour se rappeler ce qui se passait dans le temple, l'offrande de l'orge. Quand on tourne autour de l'estrade dans la synagogue, les Hakafot, à Sukkot, c'est pour se rappeler de ces espèces de processions qui se faisaient dans le temple. Quand on allume la menorah, à Hanouka, on rappelle le chandelier. Quand on fait la bénédiction des prêtres, on le fera dans le Moussaf, la bénédiction des Kohanim, on rappelle ce qui se faisait dans le temple. Donc on compense en quelque sorte, on essaye de retrouver avec une certaine joie. Pourtant, Yom Kippour, ce n'était pas une fête de pèlerinage. Ce n'était pas une fête où la foule se rendait à Jérusalem. Il n'y avait pas lieu d'y aller. Les personnes, les habitants s'y trouvaient très bien. Mais pourtant, il y avait de la joie. Et quand le Kohen revenait, ressortait, on le glorifiait, on l'exaltait vraiment d'une manière très forte. C'était donc un jour très très marqué, et Moussaf est au cœur de cette marque-là.
Eh bien, on va entendre cette joie dans cette prière dont vous avez parlé, Umipne Hataenu, interprétée toujours par le grand Moshe Kusevitsky.
Hey!
un bref extrait de cette prière Oum Ipne Ratenu de Moshe, chantée par Moshe Koussevitzky. Jacques Arnold, parlons d'un autre moment très particulier de cet office de Moussaf. Il s'agit du Seder à Avoda. C'est quoi?
Comme on le disait, c'est le service qui était accompli dans le temple le jour de Kippour, tel qu'on le trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 18-17 du Lévitique. C'est d'ailleurs ce chapitre qui fait l'objet de la lecture du jour de Kippour à la synagogue. C'est aussi tout le contenu du traité de Yoma dans le Talmud, qui décrit comment se passait cette journée avec les sacrifices, le cérémonial du bouc émissaire. Il y avait deux boucs, dont un était tiré au sort et qui était précipité dans le désert, qui était en quelque sorte porteur des fautes du peuple. Et puis l'autre était sacrifié. Il y avait bien entendu le grand prêtre qui rentrait dans le Saint des Saints, nous l'avions évoqué. Et il y avait les prosternations de tout le peuple. Il y avait donc plusieurs choses qui revêtent une importance, les purifications que faisait le grand prêtre, la description des vêtements portés par le grand prêtre, les miracles, etc. Tout ceci nous est consigné dans le Seder Avoda. C'est une sorte de rappel presque historique, presque détaillé.
Des rituels du temple, de tout
ce cérémonial. On va en écouter d'ailleurs quelques extraits.
Tout à fait. Ben, on écoute donc deux extraits successifs. Le premier s'appelle Vea Kohanim, et les Kohen, et les grands prêtres. Et le deuxième s'appellera Vea Fou, et celui-ci décrit donc le mode d'aspersion et les précautions requises pour le recueil du sang du sacrifice.
Absolument, oui.
Thank you.
on ne se lasserait pas de l'écouter, mais malheureusement, le temps n'est pas aussi long que le jour de Yom Kippour. Donc, nous venons d'entendre deux extraits, Vea Kohanim, chanté par Shalom Berlinski, et Vea Food, Raphaël Cohen, toujours extrait de son CD, Tribute to Yossel Herzenblatt.
En duo avec Ben Sion Miller. Hein,
ah oui, en duo avec Ben Sion, ah, oui, extraordinaire.
Oui.
Alors, vous m'avez dit au micro que pour conclure ce CDR Avoda, on a rajouté de nombreux piyutim, des poésies religieuses, qui diffèrent selon les rites, bien évidemment. Mais dans la liturgie ashkénaze, vous m'avez dit qu'on avait l'habitude de chanter un piyut qui s'appelle Marie Cohen, je crois, qui est devenu une sorte de tube. Vous m'aviez dit, quand on a recherché les extraits, d'aller voir du côté de la version des Pyrim de Londres. Oui. J'en ai trouvé absolument aucune trace, ni dans nos collections de l'IOMJ, ni sur Internet. Alors, c'est quoi ce groupe et quelques mots juste sur Marie Cohen.
Oui, c'est justement le spectacle du Cohen, du grand prêtre qui sortait, on pourrait dire, victorieux de cette grande épreuve que constituait le fait de prononcer le nom de Dieu, etc., dans le Saint des Saints. Donc tout le peuple voyait avec admiration qu'il revenait chargé de cette expiation, de ce pardon qui avait été demandé. Et on a comme ça des poèmes, Marie Cohen, la vision du Cohen, l'aspect du Cohen tel qu'il sortait, ou bien vous avez dans le Marzor Sfara de Salomon Ibn Gabirol, Ashrei Ayin Ra'ata, heureux l'œil qui a vu tout cela, qui a vu ce cérémonial, tout ce qui se passait dans le temple, tous les sacrifices, etc. L'oreille peut-elle entendre cela sans que notre âme en soit affligée, puisqu'on n'a plus le temple? Alors on va l'écouter, donc Marie Cohen. C'est un moment de grand...
Et surtout de
relâchement, je dirais, même. À la
sur
fin
un air très entraînant, comment on va l'entendre?
C'est devenu en Israël très, très marqué.
בדרי מעלה
מהרי כהן
ברקים היוצאים מזיו החיות
מהרי כהן.
Marie Cohen, c'est presque un tube en Israël, c'est chanté par de nombreux groupes.
Quel bel aspect avait le Cohen.
Voilà. Et Jacques Arnold, on ne saurait terminer d'évoquer les airs de Kippour sans faire un détour par les Slichot, qui sont placés juste après Moussaf. Alors les Slichot, c'est quoi exactement?
Oui, c'est le prolongement de Moussaf. Il y a des Slichot, il y a des prières de pardon, comme aux autres offices de Kippour. Et dans ces slichot, qui sont quasiment toujours les mêmes, avec les 13 qualités de Dieu qui sont données de réciter, Hachem, Hachem, El Rachum, Vechanoun, il y a El Maler Yoshev, Al Kiseh Rachamim, etc. Tous ces textes qui font la structure des slichot. Mais dans Moussaf, dans le rituel ashkenaz, il y a un passage qui est consacré au Asara Arugé Malchut, c'est-à-dire aux 10 martyrs, aux 10 rabbins qui ont péri sous la mise à mort des Romains, notamment Rabbi Akiba. Et il y a aussi Rabbi Ishmael, qui était Kohen Gadol, qui était grand prêtre. Et ce passage est lu aussi bien le 9 Av que à Kippour, pour montrer la gravité quand même de certains événements dans notre histoire. Et Rabbi Ishmael, qui était grand prêtre, a voulu, avant de mourir, encore se rattacher au nom ineffable de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que nos maîtres, les rabbins, ont introduit ce passage dans la liturgie des Selichot, de la fin de Moussaf de Kippour. On va l'écouter avec l'interprétation de Moshe Stern. Donc ce Rabbi Ishmael qui, avant de mourir, se raccroche encore au nom ineffable. Il se purifie, Tiher, Rabbi Ishmael, il se purifie et il entonne cette prière.
We be tea. Heir Rabbi Shemuel Atzmoy Ve'izikir es Hashem B'siel Ediyim Oy ve'yol l'amor Oy ve'yol l'amor Oy ve'shual ve'shual ושואל מאיסו איש לבושו הבדים. ונום לוי קבל בו קבל ולידי מצדיקים וידי
Un extrait de cette stira, donc Tir Rabbi Ishmael, interprété par Moshe Stern. Jacques Arnold, malheureusement notre émission se termine. Au nom de tous nos auditeurs fidèles et fidèles auditeurs, je vous remercie infiniment pour ces éclaircissements sur l'office de Moussaf de Yom Kippour. Je pense que nous sommes désormais prêts à affronter cette fête et ces jours terribles, Yamim Noraim. Finalement, d'ailleurs, pas si terrible que cela, puisque même si nous ne sommes jamais sûrs d'être réinscrits sur le livre de la vie, nous continuons à chanter et c'est ça l'essentiel.
Espérer et prier pour que cela se réalise. Shana Tova à tous les auditeurs et Ktiva Vachatima Tova, le fait d'être inscrit et scellé dans le livre de la vie.
Merci. Donc, si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast ou d'autres, rendez-vous sur le site de l'Institut européen des musiques juives www.iemj.org ainsi que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby and my sugar's my sugar for me means I'm crazy for my baby and my baby's crazy for me things were mild till I met